Patrick, on enchaîne avec les plantes compagnes, donc un sujet qu'on a commencé à évoquer la semaine dernière. Peut-être revenir aussi sur ce qu'est une plante compagne, comme disent les jardiniers. Qu'est-ce que c'est ?
Donc c'est bien une plante qui, de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire de façon vraiment variable, va agir favorablement au niveau d'une autre. Alors soit elle va l'aider à bien se développer, soit elle la protégera contre certains bioagresseurs. Mmh. Donc on dit le mot bioagresseur regroupe l'ensemble des problèmes, que ce soit des insectes, des acariens ou des maladies.
De quelle manière on a découvert en fait ces relations qui sont sans doute à la fois discrètes et complexes ?
Alors oui, c'est pas très très scientifique le compagnonnage. On va dire même que pour l'instant, il n'y a pas d'études qui, à proprement parler, disent il faut faire ceci ou cela. Mais, c'est vraiment l'observation depuis, j'allais dire des siècles, mais sans aucun doute, de la façon dont les plantes se comportent. Alors, le problème, c'est que on se rend compte que c'est pas toujours la même chose partout. Donc c'est là la complexité, et c'est vrai que ce sont les moines dans les jardins des abbayes qui, n'ayant pas beaucoup de place mais devant produire pas mal, avaient commencé à associer des plantes, à les faire cohabiter, et s'étaient rendu compte que certaines allaient mieux les unes avec les autres, et donc du coup on a écrit depuis des siècles un petit peu des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a aucune donnée scientifique là-dessus.
Très bien. Est-il vrai que certaines plantes ont le don de fabriquer de l'engrais ?
Eh oui, évidemment. Ce que l'on appelle, ou ce qu'on appelait dans le temps les légumineuses, donc les haricots, les pois, les fèves, le trèfle, la luzerne, etc., qui s'appellent aujourd'hui les fabacées, ont la particularité de vivre en symbiose avec des bactéries qui s'appellent des rhizobactères ou des rhizobiomes, enfin il y en a quand même plusieurs, qui viennent se greffer naturellement sur leurs racines, et ces bactéries-là fixent l'azote atmosphérique. Or, l'azote, c'est un des éléments moteurs de la plante, hein, j'en parle souvent, l'azote favorise la croissance, le développement des tiges et des feuilles.
Alors, le compagnonnage permet aussi de perturber certains insectes ravageurs, est-ce que c'est vrai ?
Alors c'est tout à fait vrai ça, oui, pourquoi ? Parce qu'en fait on sait que beaucoup d'insectes spécifiques ont une manière de détecter olfactive, c'est-à-dire qu'ils vont, la mouche de la carotte sent la carotte, la teigne du poireau sent le poireau. Donc ce sont des insectes qui sont attirés par l'odeur. Si à côté d'une carotte, vous mettez des œillets d'Inde ou des tomates, par exemple, qui quand même ont une odeur particulière, ou de la menthe, bah là, il commence à y avoir des essences volatiles autour de vos carottes
qui vont perturber
qui
en fait
les... l'autre. Il se dit mais elles sont des carottes quoi, globalement, voilà, et qui vont peut-être même masquer parfois l'odeur de la plante qui risque d'être attaquée. Alors donc on sait que toutes les plantes, les aliacées par exemple, les oignons, l'ail et tout ça, donc j'ai dit les œillets d'Inde, toutes les plantes qui ont des odeurs fortes, les menthes, les choses comme ça, bon, aident en général à protéger les plantes.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de compagnonnage positif et de plantes qu'on peut associer, tiens ?
Oui, alors bon, il y a des plantes qui sont considérées comme étant des plantes qui vont très 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 bien ensemble. Par exemple, on met l'œillet d'Inde et la tomate, ou même d'ailleurs la tomate et la carotte, ça aurait tendance à ne pas attirer les pucerons. La bourrache, alors la bourrache qui a des... d'une plante indispensable dans les potagers aujourd'hui, très jolie plante, toute velue, avec des fleurs bleues qui attirent un nombre incalculable de pollinisateurs. Donc on les met souvent avec des fraisiers, parce que comme elle est très attractive pour les pollinisateurs, bah, ça aide à la fécondation des fleurs de fraisier, et là ça vous fait pas mal de fleurs. Le souci, qui fait partie aussi des plantes à fleurs que l'on met beaucoup dans les potagers, c'est pas mal avec les choux, avec le chou de Bruxelles, etc. Il paraît, alors moi j'ai regardé ça un peu de loin, j'ai pas trouvé que c'était extrêmement efficace, mais en tous les cas c'est joli, mais ça aurait l'effet de repousser un peu les insectes. Donc je disais la menthe avec les choux, évidemment, il y a la pyrite du chou. Vous voyez ce petit papillon blanc avec des points noirs sur les ailes, dont la larve, mais alors, ravage complètement les feuilles de chou. Si vous mettez des menthes à côté, ça pue trop l'odeur du chou.
Donc ça la perturbe.
Donc ça va protéger quand même pas trop mal. Le fenouil avec le navet, on a vu aussi que l'altise, qui est un petit insecte qui attaque toutes les brassicacées, c'est-à-dire que ça attaque les navets, mais ça attaque aussi très très bien les radis, par exemple, eh bien, avec le fenouil, qui lui aussi a une odeur d'anis un peu particulière, bah ça repousse. Alors il y a aussi des plantes sympas, comme les géraniums odorants. Alors ce sont des pélargoniums, ils sont frileux, on va les planter d'ici une dizaine de jours, mais si vous les mettez avec des poivrons ou des aubergines, etc., bah vous allez avoir aussi un effet répulsif sur les insectes. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes.
À l'inverse, est-ce qu'il y a des plantes qu'il ne faut pas associer avec d'autres ?
Ah oui, alors déjà les plantes de la même famille. Par exemple, vous n'allez pas mettre des aubergines avec des pommes de terre parce que les doryphores qui adorent les feuilles...
Ben là, elles vont se régaler en fait.
Elles auront
double ration.
Voilà. Si vous plantez des tomates avec des pommes de terre, vous allez favoriser l'apparition du mildiou. Donc on a vu aussi qu'il y a des incompatibilités. Alors, je dirais que c'est plus supposé qu'avéré, parce que c'est pas toujours... Alors c'est d'abord, c'est pas expliqué, et deuxièmement, c'est pas toujours le cas. Mais on dit qu'en général, les cucurbitacées, c'est-à-dire les courgettes, les melons, les potirons, vont pas trop bien avec les choux, ou vont pas trop bien avec les pommes de terre. Les pommes de terre, elles aiment pas trop les épinards, c'est ce qu'on dit. Mmh. Les aliacées, donc l'ail, l'oignon, l'échalote, poireaux, avec le fenouil, ou avec les haricots, les pois, les faves. Alors on se rendra compte aussi une chose... C'est que parfois, et notamment dans la littérature, vous allez avoir des exemples où on vous dit ça, ça marche, et l'autre à côté, un autre auteur, il vous dira ça, ça marche pas. Donc faites vos essais.
Il faut tester nous-mêmes.
C'est quand même la base.
Mm-hmm.
Alors après, vous avez des plantes qui sont, on va dire, totalement neutres. Par exemple, les salades, vous pouvez en mettre avec tout. Ça n'interagit pas.
D'accord. Voilà. Ouais. Voilà pour les plantes compagnes. Patrick, on revient dans un instant. Vous vouliez peut-être évoquer
juste un
petit
truc, si
livret.
Vous initiez aux plantes compagnes, pas cher, avec un livre qui est à 5,95. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. C'est Catherine Delvaux qui a écrit Les plantes compagnes, association réussie chez Larousse dans la collection Petit Carnet Jardin. C'est simple, c'est facile, c'est très, 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 très bien fait. Donc voilà, les plantes compagnes chez Larousse.